Grand Luc.
Démarrons cette émission avec un coup de Martinet, un grand coup de Martinet, de Jean-Pierre Martinet. Né en 1944 à Libourne, où il revint mourir en 1993, après avoir sombré dans l'alcoolisme. Entre les deux, Jean-Pierre Martinet fut assistant réalisateur à l'ORTF, critique, traducteur de Jack London, et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, écrivain. En 1979, il publie dans la revue Subjectif, entre un texte de Kerouac et un autre de Bukowski, un bref monologue intitulé « La grande vie ». C'est l'histoire d'Adolphe Marlot, qui habite rue Froidevaux, un appartement avec vue sur le cimetière, une de ces rues où on meurt lentement, à petit feu, à petits pas, de chagrin et d'ennui. N'ayant réussi à n'être ni fantôme, ni homme invisible, cet étrange voyageur d'hiver s'est fixé une ligne de conduite, vivre le moins possible pour souffrir le moins possible. Mais c'est sans compter sur Madame C, sa concierge, qui guette amoureusement son passage du haut de ses 2 mètres, elle fait 2 mètres, lui il est tout petit, pour le contraindre à des actes auxquels la lecture qui va suivre devrait vous sensibiliser. L'ouvrage, très drôle, remarquablement écrit, vient d'être réédité aux éditions de L'Arbre Vengeur, avec une préface signée du comédien Denis Lavant. Vous savez, l'alter ego passionnant de Léos Carax. Car La Grande Vie a reçu le grand prix de l'humour noir du spectacle pour son adaptation au théâtre par Denis Lavant. Denis Lavant, qui dans la préface clame son amour des aventures scabreuses et pathétiques de cet avorton d'Adolphe Marlot, saluant, je cite, « les petites bombes hilarantes à retardement » de Martinet. Fouette, cochée.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Lorsqu'elle avait bien joui, après avoir poussé un meuglement qui faisait trembler les murs, elle m'expulsait de son formidable vagin, me laissant seul sur le plancher comme un roi dépossédé, trempé de la tête aux pieds, incapable de dire un seul mot. Lorsqu'elle me voyait trop longtemps demeurer accroupi par terre, un air absent, Madame C m'ordonnait d'aller me laver en me donnant une grande claque sur les fesses. « Allez, hop, mon petit bonhomme, à la douche !» Je n'osais lui avouer qu'elle aussi aurait eu grand besoin d'une douche, car vraiment, cette fois, j'avais eu peur de mourir asphyxié pendant notre folle étreinte. Si du moins, on peut appeler ainsi l'acte répugnant qui nous unissait. Mes cheveux noirs pendaient en mèches sales sur mon front. Je me sentais gluant, visqueux, comme un nouveau-né braillard qui vient d'être chassé du ventre de sa mère, horriblement mal à l'aise, en colère contre tout ce qui l'entoure. Je ne pouvais m'empêcher de penser, certains jours, que tout de même, Madame C avait une manière bien étrange de faire l'amour. Elle n'attendait pas que je sois prêt, non. Elle me voulait tout entier en elle. J'étais condamné à plonger sans maugréer dans les ténèbres rougeoyantes. Je comprenais la terreur des habitants de Pompéi lorsque la lave du Vésuve avait déferlé sur eux. Mais je n'arrivais pas à en vouloir à Madame C. D'abord, la passivité à laquelle elle me condamnait n'était pas pour me déplaire. J'ai toujours été un grand paresseux en amour, incapable de prendre l'initiative. Ensuite, n'était-elle pas la première femme à me manifester un peu de tendresse? Généralement, on me comparait à un cloporte ou à une punaise, ce qui me flattait plutôt, car j'ai toujours adoré ces petits insectes. Quand je me regardais dans la glace le matin, je ne donnais pas entièrement tort à mes détractrices. Cette tête d'avorton maussade, presque toujours ensommeillée, ce teint jaunâtre, comme si j'avais passé la nuit dans un seau hygiénique, cette taille ridicule qui m'obligeait à porter des chaussures à talons très hauts pour ne pas ressembler à un des nains de Blanche-Neige. Je me sentais parfois si laid, si misérable, que je détournais les yeux lorsque j'apercevais mon reflet dans une vitrine. Madame C était encore trop bien pour moi, je ne la méritais pas. Souvent, je me disais « Qui es-tu donc, Nabo, pour être digne des faveurs d'une telle femme? Quels sont tes mérites ?» Je veux bien reconnaître qu'ils étaient nuls, mes mérites. Bien sûr, il y avait la différence d'âge, mais ce n'était pas le plus important. Lorsque Madame C me regardait amoureusement du haut de ses 2 mètres, le matin, quand il y avait encore un peu de brume, Je n'apercevais pas toujours son visage radieux. Je sentais bien que ce qui nous unissait était plus fort que ce qui nous séparait. Certes, nous n'étions pas d'accord sur tout. Et alors, à cette époque, j'habitais rue Froidevaux, en face du cimetière Montparnasse, au 5e étage d'un immeuble qui menaçait ruine. De là, j'avais une vue imprenable sur les tombes. Depuis plus de 15 ans, la rue Froidevaux était ma prison. J'étais un détenu modèle. Si je gémissais souvent sur ma condition, je ne me révoltais jamais. Je ne cherchais pas à m'évader. À vrai dire, je ne désirais pas grand-chose. Ma règle de conduite était simple. Vivre le moins possible pour souffrir le moins possible. Pas très exaltant, peut-être, comme précepte, mais très efficace. Essayez, vous verrez. J'aimais avant tout passer inaperçu. J'aurais volontiers donné tout ce que je possédais pour être un homme invisible ou un fantôme. À force de raser les murs du cimetière, j'avais fini par prendre leur couleur.